Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans votre émission Bien fait pour vous, celle qui prend soin de vous tous les jours en direct jusqu'à midi. Et ce matin Mélanie, quel sera notre grand dossier du jour?
Aujourd'hui, ambiance Festival de Cannes sur Europe 1, puisqu'on va se poser la question suivante. Et si on devenait le personnage principal de sa vie? Être une star de cinéma, on en a tous rêvé. Et bien aujourd'hui, on va en rendre ce songe possible. Nous verrons comment tout mettre en place pour davantage s'affirmer, se mettre en lumière, bref, de quoi obtenir l'Oscar de la meilleure vie. Pour nous guider dans cette voie, nous recevrons aujourd'hui Stella Delmas, elle est écrivaine et scénariste, ainsi que Juliette Marty, psychologue clinicienne.
Et ensuite, Mélanie, à 11h45, ce sera notre séquence tendance avec nos deux chroniqueuses du jour, Soizic Belin et d'humeur joueuse ce matin. Elle a repéré pour nous des sextoys d'un nouveau genre, mais surtout des sextoys uniquement masculins. Elle viendra nous en parler. Et puis, pour finir ce tour de table, Margot Grossman sera aussi de la partie. Elle revient d'un voyage en Inde où elle a déniché de nouvelles idées gourmandes. Elle va nous apprendre comment profiter à fond du pouvoir des épices. Bien fait pour vous, c'est parti.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Feel Good, bien-être. Pendant une heure, on va comme tous les jours tenter de vous faire du bien. Notre question du jour, la voici, et si on devenait le personnage principal de sa vie?
Et oui, aujourd'hui on vous propose de vivre votre vie comme au cinéma. Et oui, la vie c'est comme un film initiatique dont chaque séquence peut nous transformer. Alors, est-ce que vous allez en rester le simple spectateur ou est-ce que vous allez oser écrire votre propre scénario et incarner le premier rôle? On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Mais pour démarrer, on va voir ce qu'en pensent les gens dans la rue grâce à vous, Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Effectivement, un sujet cinéma, un sujet bonheur aujourd'hui. On va se transposer justement dans le cinéma. Et j'ai demandé aux Français que j'ai croisés dans la rue, dans quel film, si on avait ce pouvoir, on aimerait vivre.
Je veux bien être dans Coup de foudre à Notting Hill. Je serais Julia Roberts, rien que pour pouvoir embrasser Hugh Grant.
Ça serait Charlie et ses drôles de dames. Enfin, les trois filles, notamment Cameron Diaz. Enfin, moi, j'ai envie de faire les mêmes pirouettes, j'ai envie de faire des cascades, de dégommer les gens. Bref, merveilleux.
Alors moi, ça serait Titanic. Je descends bien à l'avant-dernière escale. Hein. Ou alors, je prends un bon gilet de sauvetage.
C'est vrai que le bateau vif sur le bateau, c'est pas mal.
J'aurais pas dit Titanic.
La fin, ça allait pour moi. J'aurais choisi un Amélie Poulain, je pense, pour me promener dans ce Paris un peu innocent, farfelu, ouais. C'est pas mal. Alors, il y a des parents qui ont réfléchi, notamment cette maman, qui, elle, aimerait vivre dans ce film, mais pour une raison bien particulière.
Alors là, sans hésiter, Toy Story. Comme ça, je demande aux jouets de se ranger eux-mêmes une fois que les enfants ont terminé de jouer avec. C'est génial, ça m'évitera au moins de le faire moi-même.
Des jouets qui parlent, ouais. Ça c'est pas mal. Je sais pas ce qu'on verra tout à l'heure dans la chronique sextoy. Je ne sais pas, mais en tout cas des jouets qui parlent, je trouve que c'est une bonne idée. Après, il y a aussi cette personne qui m'a proposé un film. On n'est pas à l'abri qu'il finisse en prison, lui.
Moi, c'est un film, mais je me rappelle plus du titre. Le film Gentleman avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam et Hugh Grant là, ils sont tous hyper bien sapés, c'est tous des dilos, mais ils sont trop bien sapés, ils fument le cigare, ils boivent du whisky, c'est de la mafia mais gentil, les gangsters qui ont des valeurs quoi.
Oui, la mafia c'est mieux au cinéma quand même, hein, je vous confirme. Puis après j'ai demandé aussi à des personnes, mais à quoi ressemble votre vie? Si là votre vie, votre dernière semaine, ce serait quel film?
Ah, moi, ce serait plutôt Charlie et la chocolaterie, pour le côté gourmand, tout ce qui est chocolat, tout ça.
Ouais, donc c'est plus terre à terre, et puis cette dame est quand même plutôt lucide.
Ah bah c'est Bridget Jones. Ah bah parce que je suis vraiment l'archétype de la trentenaire célibataire. On va pas développer.
Voilà, on a compris. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux de l'émission Bien fait pour vous. Quel est le film de votre vie en fait?
Julia, c'est quoi le film de votre vie? Celui que vous aimeriez en tout cas.
Moi j'aime bien Barry Lyndon.
Ah ouais.
Grandeur et décadence.
Et vous fabuleux. Alors Clément?
Je pense que c'est pas mal. Barry Lyndon avec un coucher de soleil, ouais. Parfait.
Allez, parfait. Merci beaucoup Clément pour ce petit reportage maintenant. On va détailler les choses avec nos invités. Bonjour Stella Delmas.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine et scénariste, l'auteur du livre Ma vie comme au cinéma, l'art de réaliser la vie dont vous rêver aux éditions Solar. Alors à vos côtés, il y a également Juliette Marty. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes psychologue clinicienne et l'auteur du livre « Et si être trop gentil vous empêchait d'être heureux » aux éditions Erol. Alors Stella Delmas, pourquoi avoir écrit ce bouquin? Parce que vous pensez qu'on a vraiment tous, en général, tendance à être trop spectateurs de notre vie?
Alors oui, je pense qu'on est spectateur d'un film dont on n'a pas écrit le scénario et que si on est acteur, on est souvent acteur passif, qu'on joue un rôle pour ne pas déplaire ou pour plaire aux gens les plus proches, et qu'on est souvent guidé par la peur comme metteur en scène et pas par l'amour qui est le meilleur metteur en scène.
D'accord. Et c'était original, ça, Stella, comme approche. Comment ça se fait que vous avez pris justement le domaine du cinéma pour en faire finalement une nouvelle façon, une nouvelle manière de développement personnel ? Pourquoi ce point de départ du cinéma ? Vous vouliez être actrice vous-même ?
Alors, en fait, je suis aussi actrice et voix off. Et donc, j'ai...
Vous baignez dans ce milieu-là.
Exactement. Ouais. Et je suis passionnée par le cinéma, mais je suis aussi passionnée par l'autre et par la psychologie. Et j'étais attirée par les archétypes de Carl Gustav Jung. Et je me suis dit, j'aimerais créer des archétypes inspirés des métiers du cinéma. Mmh. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Parce que pour moi, c'est une manière de vivre plus en conscience. Parce que le métier du cinéma vous amène à adopter tous les points de vue. C'est-à-dire qu'on a différents talents et c'est le concours de tous ces talents qui fait un film. Mais chacun, là, même à la radio, il y a le preneur de son. Et mais nous, on est juste là derrière à se dire qu'est-ce qu'il faut que je dise. Donc c'est vraiment pour ça, c'est trouver l'angle pour vivre sa vie en pleine conscience.
Juliette Martin, être en arrière-plan de sa vie, c'est quelque chose qu'on fait quand on est trop gentil. C'est le titre de votre livre. Trop gentil au quotidien, par exemple. En faisant quoi ? Passer les autres avant soi ? C'est ça le problème ?
Oui, ça va être de laisser passer les autres avant soi, d'oublier ses désirs, ses envies, ses besoins, de toujours écouter plutôt l'autre avant de s'écouter soi-même. Et du coup, à force, on a plus tendance à s'oublier et effectivement à se mettre plutôt d'un côté passif.
Et est-ce qu'on pourrait dire, puisqu'on est dans ce thème du cinéma aujourd'hui, qu'être le gentil chronique, c'est pas un rôle en soi quelque part pour certaines personnes ?
Oui, ça peut être un rôle qu'on a construit depuis l'enfance, à l'adolescence, dans lequel finalement on se sent plutôt bien. Sans être pleinement heureux et vivre sa vie en pleine conscience.
Mais Stella, dites-moi, est-ce que c'est pas prendre le risque finalement de jouer un personnage aussi ou d'avoir une vie artificielle ? Car au cinéma, on le sait, c'est de la fiction, donc en fait c'est pour de faux, comme on dit.
Tout est faux, tout est fake.
Donc est-ce que le fait de vouloir vivre sa vie comme un film, on n'est pas à côté de la plaque justement, de la réalité ?
Eh bien justement, moi j'amène à dire que c'est tout le contraire, que c'est fait pour tomber les masques, pour oser être la personne que l'on n'a jamais osé être et qu'on a enfoui derrière des masques justement et des faux-semblants et parfois même des addictions, un rôle. Et c'est tout le paradoxe, c'est de se remémorer qui l'on désire être pour tomber le masque et oser se trouver ou se retrouver.
Alors, on le disait tout à l'heure, le cinéma, c'est une chaîne de talents et notamment, ça commence généralement par un bon scénario. Donc, il faut un scénariste, il faut également un monteur-mixeur pour terminer le film. Vous êtes à quel niveau ? Vous êtes la costumière de votre vie ? Vous êtes la mixeuse de votre vie ? La scénariste ? Ou vous endossez tous les rôles ?
Alors, je suis plutôt scénariste et j'aimerais bien être la réalisatrice aussi. Mais je suis aussi dans la diffusion, de donner justement ces fameuses clés aux gens pour qu'ils puissent se réaliser eux-mêmes, en fait. J'ai pas la solution.
Distributeur aujourd'hui.
Voilà.
On distribue l'amour.
Il faut des distributeurs.
Clément, vous êtes quoi, vous ?
Moi, je suis le producteur de ma vie. J'envoie un autre acteur quand j'ai la flemme de me lever le matin. Voilà. J'essaie de trouver quelqu'un qui me ressemble et il vient à ma place. Vous ne remarquez rien et ça, c'est dingue.
Non, c'est drôlement bien fait, ces effets spéciaux. Merci à toutes les deux. Vous restez évidemment avec nous, on vous dit tout ce matin sur les moyens de décrocher enfin votre étoile à vous. On vous invite à réécrire votre histoire à l'encre de vos désirs les plus profonds, votre vie comme au cinéma. Ce sera dans quelques minutes. En attendant, restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Et ce matin, on vous pose cette question. Et si on devenait le principal personnage de sa vie ? Alors pour nous y aider et y parvenir, elles sont toujours en studio avec nous ce matin. Stella Delmas, écrivaine et scénariste, ainsi que Juliette Marty, psychologue clinicienne. Juliette, alors je commence avec vous. Pourquoi on a tendance à se mettre au second plan, à être finalement trop gentil et à vouloir s'effacer ? C'est quoi le truc ?
Alors généralement, ça va être des apprentissages qui vont avoir eu lieu dans l'enfance, puis dans l'adolescence. Ou par exemple, si j'ai eu une expérience en tant que petite fille avec une amie où j'ai eu l'impression d'avoir maltraité par exemple cette amitié en exprimant le fait que j'avais pas envie de faire quelque chose, je peux avoir la possibilité d'enregistrer cette croyance-là que finalement, si j'exprime que je suis pas d'accord ou si je dis non... je malmène une amitié, donc le risque c'est que je sois moins appréciée.
Donc de décevoir les autres,
moins aimée, de générer un conflit.
Donc la source du problème, elle est souvent dans l'enfance, dès l'enfance en réalité.
Oui, ça va être des apprentissages. En fait, tout n'est que apprentissage tout au long de la vie. Et une situation va entraîner des réactions, et ces réactions-là vont générer des conditionnements en fait.
Remarquez, c'est un personnage, le gentil dans les films, il y en a.
Exactement.
Alors est-ce qu'on peut faire sa vie en étant juste une personne gentille, être heureux, à votre avis ?
Alors, juste gentil, oui. Après, c'est pourquoi est-ce qu'on est gentil et à quel point est-ce qu'on est gentil ? Si on est trop gentil et que du coup, on s'en oublie et finalement, on n'est pas vraiment nous,
C'est dommage de passer à côté de sa vie.
C'est le trop qui pose problème, en fait. Alors, on le sait, Stella, dans un bon film, ça commence par un bon scénario, en général. Comment on l'écrit, alors, ce scénario de notre vie? Peut-être même déjà dès l'enfance, hein, on y met quoi, par exemple, dans ce scénar? Ses rêves les plus fous, ses objectifs qui soient quand même réalisables? Il faut écrire, tout ça, c'est important.
Exactement. Pour moi, ce qui compte, c'est l'idéal. Et la question de départ, c'est qui aimeriez-vous être si tout était possible?
Ouais, moi, je voulais être danseuse classique, j'ai pas vraiment le gabarit. Alors, j'aurais beau l'écrire, je suis pas sûre que c'était réalisable.
Mais vous pouvez le faire autrement qu'en domaine professionnel, vous pouvez le faire en passion. En fait, c'est qu'est-ce qui vous met en joie? Ça, c'est la première chose. Et après, c'est écrire et mettre les séquences principales pour y arriver.
Et dites-moi, Stella, ça concerne tous les domaines, je veux dire la vie professionnelle, mais ça peut aussi, on entendait quelqu'un qui aurait voulu embrasser Hugh Grant, donc on peut aussi projeter comme exactement. Ça des scénarios amoureux.
Oui, exactement. En fait, quand vous vibrez une énergie, vous l'attirez. Donc, si vous avez une idée très précise de l'amour que vous voulez vivre, au lieu de fixer sur ce que vous ne voulez pas, vous fixez sur ce que vous voulez et ça va créer une énergie qui va l'attirer dans votre vie.
Donc c'est Hugh Grant va venir, juste si je l'écris sur un papier, il va débarquer comme ça à ma porte demain. Eh ben, il ne peut pas être partout, il est déjà avec moi. Mais l'écrire, c'est important pour attirer les bonnes ondes, quelque part, c'est ça que vous voulez dire.
Vous créez l'énergie, en fait, et vous la matérialisez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans la tête.
Et est-ce qu'on doit se donner un délai de réalisation? Parce que les films, ils ont une date de sortie.
Ah oui, donc je dois embrasser Hugh Grant avant cet été, par exemple.
Non, mais est-ce que la sortie d'un film, c'est daté? Est-ce que ces objectifs qu'on a, que ce soit professionnel ou personnel, il faut les dater?
Important. Parce qu'en fait, si vous ne mettez pas un jour, une date, un lieu, vous allez. Le mental a tellement la peur du changement qu'il va rester dans sa zone de confort. Alors que si vous prenez rendez-vous avec vous, avec votre bonheur et avec ce changement, vous allez le faire.
Comment on réalise, Juliette Marty, on en parlait tout à l'heure, d'être le trop gentil qui peut justement empêcher l'épanouissement, mais comment on le réalise qu'on l'est? Parce que parfois les autres disent, oh là, lui il est trop gentil, elle est trop gentille, mais c'est pas facile de mettre les mots pour soi-même, en fait.
Alors on va pas forcément se rendre compte directement qu'on est trop gentil, ça va être des situations dans le quotidien où on va se rendre compte que en fait dire non c'est impossible, refuser à un collègue de récupérer d'autres tâches de travail, refuser d'aider à un déménagement parce qu'on n'est pas disponible, trouver toujours des excuses pour ne pas faire les choses, être jamais celui qui choisit quand on lui demande ce qu'il a envie de faire ou est-ce qu'il a envie de partir en week-end, de laisser toujours l'autre choisir.
Donc la communication, c'est essentiel, c'est ce que vous dites. Comment on s'exprime de manière affirmée, justement? Est-ce que vous avez un conseil pratique à donner à nos auditeurs?
Pardon. Je suis pas sûre qu'il y ait une façon appropriée un conseil spécifique. Généralement, il y a cette idée que quand on est affirmé, c'est qu'on est égoïste, qu'on va penser plus à soi qu'aux autres. Finalement, l'idée principale, c'est de garder en tête que s'affirmer, c'est exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce dont on a envie, ce dont on a besoin, de façon honnête, en respectant ses émotions, tout en laissant aussi la place à l'autre d'exprimer ce dont il a besoin, ses envies, ses émotions, etc. Et c'est vraiment une communication ouverte entre deux personnes qui peuvent se dire les choses.
Mais il faut commencer par dire ce qu'on a effectivement sur le cœur. Alors justement, puisqu'on parle de s'exprimer de façon affirmée, on va prendre en ligne tout de suite Alexandra Chauvel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédienne de théâtre, coach, formatrice. Dites-nous, pourquoi les gens viennent vous voir? C'est pour aider justement à mieux communiquer, à mieux s'exprimer par exemple en public?
Alors oui, mais pas que. En fait, moi, je propose des ateliers de théâtre et de confiance en soi. Mmh. Et du coup, oui, ils viennent pour mieux communiquer in fine, mais ils viennent pour trois problématiques, en fait. Un problème de confiance en eux, donc plutôt lié à la question du dépassement de soi. En fait, ils ont peur de quelque chose. Et là, quand ils viennent dans mes ateliers, ils ont envie d'aller au-delà. Mmh. Et généralement, derrière cette peur, il y a la confiance. Donc ça, c'est chouette. Mmh. Ils ont aussi la peur du regard de l'autre. Alors, ce qui est quand même un paradoxe très enquiquinant parce que on se construit avec l'autre et en même temps, on en a peur. Donc, c'est justement pouvoir composer avec ce regard, jouer avec ce regard pour construire une histoire ensemble.
Et justement, Alexandra, de manière très, très concrète, dans vos ateliers de confiance en soi, de théâtre, vous utilisez quel levier pour aider les gens? Concrètement, un exercice, par exemple, vous pouvez nous dire?
Alors, moi, j'adore un thème que je leur fais travailler, c'est faire briller son partenaire.
Ça veut dire quoi?
Pour pouvoir écrire l'histoire ensemble.
Quand on dit briller, Julia, elle pense ménage. Alors attention, expliquez-nous mieux. Parce que...
Ou astiquer, enfin des trucs chelous.
Non, alors on n'astique rien du tout. Non, c'est être en capacité de se décentrer de soi. Donc ça veut dire avoir une confiance totale en ses capacités pour pouvoir regarder l'autre, communiquer avec l'autre, jouer avec l'autre et écrire une histoire ensemble. Et ça, c'est pas si simple que ça.
Bah, évidemment.
Donc voilà, être ancré en soi. Et puis pouvoir poser un regard délicat et brillant sur l'autre pour pouvoir Écrire une belle histoire.
C'est ce que j'ai essayé de faire tous les jours avec Mélanie Gomez. Alors, on dit souvent aux gens timides de faire du théâtre, hein, et notamment de la comédie. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Parce que c'est quand même pas si simple de se mettre en scène et d'être drôle en plus si on souffre au départ de timidité. C'est compliqué, non?
Oui, et puis alors, vouloir être drôle, c'est justement ce qu'il faut pas vouloir. Mmh. C'est-à-dire qu'au départ, se donner des injonctions de performance, c'est ce qui va tuer la créativité. Donc, par contre, pour les gens timides, pour revenir au début de la question, c'est génial parce que quelque part, à partir du moment où ils arrivent à dépasser leur peur, c'est comme si c'était acquis et ils reviendront plus en arrière. Donc, alors c'est pas magique non plus, hein, ils vont pas changer du tout au tout. Mais voilà, ils mettent un mouvement positif. Et pour moi, à partir du moment où il y a du mouvement, il y a de la vie et ça, c'est chouette.
Parfait. Merci beaucoup, Alexandra, pour votre intervention. Juliette
Avec
Marty,
plaisir.
Je reviens vers vous pour s'affirmer. Vous, en tant que psychologue, vous recommandez le théâtre, justement? Est-ce que ça s'apparente peut-être à une espèce d'expérience comportementale?
Alors oui, le théâtre, c'est super. Les clubs d'impro, moi, je propose pas mal à mes patients. Et effectivement, c'est une expérience comportementale. En thérapie comportementale et cognitive, on va parler d'exposition. C'est-à-dire qu'on va se mettre en scène dans une situation anxiogène et s'habituer petit à petit à l'émotion et à la situation pour ressentir moins d'émotions désagréables.
Mais Stella Delmas, on n'est quand même pas obligé d'être bonne comédienne ou bon comédien pour être le personnage principal.
Rassurez-nous.
De sa vie. Parce que,
c'est tout le contraire. Non. Il faut arrêter de jouer le rôle et plutôt écouter, renouer avec son corps et avec son émotion qui est la joie, qui va nous amener à être vraiment pleinement qui on est en fait. C'est être acteur dans le sens... j'arrête de me voiler la face, je tombe les masses. Si je m'écoute, qui je suis au fond de moi et qu'est-ce qui me met en joie?
Et qui j'ai envie d'être,
Mélanie?
Exactement. Bah, c'est compris. Et vous restez avec nous. On n'en a pas fini avec notre sujet de ce matin. On vous apprend comment vivre votre vie comme au cinéma. En fait, il s'agit d'une méthode de développement personnel, vous l'avez compris, mais avec une approche originale pour tout simplement faire s'épanouir votre singularité. Car oui, vous êtes une vedette, vous avez le premier rôle. D'autres conseils arrivent dans Bienfait pour vous. Donc, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Notre question du jour, la voici. Et si on devenait le personnage principal dans le film de notre vie? On en parle avec vous, Stella Delmas, écrivaine et scénariste, ainsi que Juliette Marty, psychologue clinicienne. Alors Stella, on va parler d'un sujet qui passionne Julia, c'est l'organisation.
Ah, important, oui. L'organisation, Julia.
Surtout quand on veut faire un film.
Voilà,
j'imagine. Alors c'est important d'être organisé, d'être le régisseur de sa vie. Pourquoi c'est si important? Et c'est, je sais pas, pour être plus productif, par exemple?
Exactement, parce qu'en fait, penser, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Et donc, comment mieux agir? C'est s'organiser. Et quand vous prenez rendez-vous, comme on disait tout à l'heure avec vous, vous l'avez inscrit et vous ne pouvez pas vous en détourner.
Oh là là, j'adore quand vous parlez. Ça me parle d'autant plus que vous reprenez quelque chose à Florence Servan-Schreiber, c'est de se faire un kiff par jour. Et d'ailleurs, vous préconisez de le noter dans son agenda. Pourquoi, selon vous, c'est si important? C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, moi, je déjeune avec une copine, forcément, je le marque dans mon agenda.
Bah, si vous l'aimez bien, quoi.
Voilà. Mais en fait, c'est pour s'assurer de se l'autoriser et pas dire, ben non, finalement, ce n'est pas important, je n'y vais pas. En fait, le fait de poser les mots et de les écrire, vous matérialisez la pensée et elle prend corps dans la réalité, en fait.
C'est un de vos mantras, Julia. Vous notez, vous, les trucs de qui? Les moments de kiff dans votre agenda.
On le répète souvent, mais c'est important.
J'ai des codes couleurs et le kiff, c'est en rose. Si j'ai pas un rose visuellement par jour, je le rajoute.
Ah, mais c'est indispensable. Un kiff par jour, c'est le minimum.
Oh, c'est quoi votre kiff aujourd'hui?
Ah, bah, d'être là.
Ah, bah, ouais.
Merci. J'espérais que vous alliez dire ça.
Et puis, Estella, il y a autre chose, un autre facteur qui est important chez les stars de cinéma, c'est l'apparence. Vous consacrez d'ailleurs un chapitre à ce sujet. Pourquoi c'est si important, selon vous, de soigner son image dans son quotidien? C'est juste pour plaire aux autres ou c'est pour soi-même, en fait?
Surtout pas uniquement pour plaire aux autres. C'est vraiment pour se plaire à soi avant tout. Et c'est surtout pour renouer avec son corps, avec toutes les parties qu'on a. Et c'est surtout souligner ce qu'on aime et apprécier ce qu'on aime moins, parce qu'on est aussi ce qu'on n'aime pas. Donc c'est se dire, ok, j'ai ça qui va, j'ai ça qui va moins, mais je suis aussi ce que je n'aime pas. Et c'est ça en fait, c'est comment je fais pour aimer tout ce que je suis.
Mais d'ailleurs, il y a de grandes actrices qui avaient des nez pas terribles, etc., et qui ont fait des carrières exceptionnelles. On ne les imagine pas avec un autre nez.
Non.
C'était là c'est pour être acteur de sa vie. Vous dites aussi qu'il faut se libérer des croyances limitantes. C'est ça la clé, selon vous ?
C'est une des clés indispensables pour moi, parce qu'en fait, c'est aussi l'essence de mon livre. C'est changer d'angle, de mindset. Quand vous passez de scénariste à producteur ou acteur, en fait, c'est vous avez un angle différent. Bah, en fait, c'est ça. Et je pense que changer de croyance, c'est en adopter une nouvelle, mais positive. Mais
justement, Juliette Marty, j'imagine que ça, c'est un frein à l'affirmation de soi. Vous parlez même de croyances autodestructrices. C'est aussi grave que ça ? Vous voulez dire quoi par là ?
Effectivement, autodestructrices ou croyances limitantes, ça va vraiment être des croyances sur lesquelles, si on ne fait pas de travail dessus, ça ne va pas changer du jour au lendemain.
Vous pouvez nous donner un exemple de croyances limitantes, par exemple ?
Si je dis non, je ne serai pas aimée. Avec cette idée que si je dis non, je ne serai pas aimée. Si je ne suis pas aimée, je vais me retrouver tout seul. Donc si je dis non, je vais être tout seul. Finalement, cette croyance-là, si on ne travaille pas dessus, si on n'essaye pas de la déconstruire, de comprendre d'où est-ce qu'elle vient pour essayer d'en mettre d'autres, juste essayer de s'affirmer, ça suffira.
Et comment je fais concrètement alors pour la bannir définitivement, cette croyance limitante? Ça ne se fait pas en un jour, j'imagine. Mais est-ce que vous avez un petit exercice pratique à faire au quotidien pour quelle que soit la croyance qu'on a en tête, qui nous limite en tout cas?
C'est dans le livre, il y a l'exercice du journal des pensées où justement c'est un exercice de restructuration cognitive où on va se poser pas mal de questions en partant de la croyance de base sur est-ce que je suis certaine que cette croyance est vraie dans toutes les situations.
Vous dites journal, c'est-à-dire qu'il faut écrire encore. Donc l'écriture, c'est souvent une aide en fait, hein. C'est ça, Juliette ?
L'écriture, elle va permettre effectivement au cerveau de matérialiser ce qui est en train de se passer dans la tête. Quand on a des pensées, on peut penser plein de choses. Effectivement, Hugh Grant va venir frapper à ma porte. C'est pas parce que je le pense que ça va se passer.
Mais si je l'écris, ça va se passer.
Il y a plus de chances. Si je l'écris, il y a plus de chances que ça va se passer.
Vous êtes d'accord, Stella ? Je vous voyais trépigner.
Complètement. Mais parce qu'en fait, pour moi, je trouve que l'écriture, c'est jeter sur le papier ce qu'on a dans la tête, le matérialiser et aussi se libérer des choses négatives.
Alors Stella, justement, parfois, même si on manque d'assurance, vous dites, et ça c'est un peu étonnant, qu'il faut un peu faire semblant pour y arriver. Alors, dans quelle situation, par exemple, où il faudrait, par exemple, donner l'impression qu'on est super à l'aise et que ça vient tout seul?
Alors, c'est pas faire semblant dans le fait de se mentir ou de mentir aux autres. C'est jouer à être. Par exemple, moi, si je voulais être romancière, quand j'étais cadre chez L'Oréal, je voulais être romancière. J'ai dit qui est le romancier ou la romancière que j'aimerais être. J'ai étudié sa manière de faire.
C'était qui ?
J'aime bien plein Sagan ou autre. Enfin, mais par exemple, si on voit les histoires de Musso, j'aimais bien ces histoires.
Vous avez visé haut, hein.
Si vous voulez avoir ce que vous voulez, il faut viser haut. Et donc, vous le regardez comment il fait et vous vous y attelez. Donc, j'ai joué dans le sens, j'incarne. Ok, je veux écrire et devenir une grande romancière. Ok, je m'y colle tous les jours 4 ou 5 heures et je déploie le scénario. Donc, c'est pas faire semblant, c'est jouer. C'est ok. Aujourd'hui, j'y suis, j'y vais.
Bon, néanmoins, une fois qu'on y est arrivé, qu'on est Françoise Sagan, qu'on est devenu le personnage principal de sa vie, eh bien, comme dans les films, comme dans les livres, on doit faire face quand même aux critiques. Juliette Marty, comment on réagit à une critique, je sais pas, vraiment méchante, venant de son entourage? C'est quoi la meilleure façon de se positionner, justement, pour pas souffrir et s'épanouir malgré tout?
Il va y avoir deux types de critiques. Les critiques qui vont être constructives, qui vont viser un comportement, et des critiques qui vont juste viser la personne et qui seront méchantes. Celles-là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de soit faire préciser la critique pour réussir à comprendre ce que l'autre a voulu dire.
La rendre constructive,
la rendre quand constructive, c'est possible. Voilà. Et sinon, exprimer ce qu'on a ressenti vis-à-vis de cette critique-là. Et en revanche, les critiques constructives vont nous permettre de nous améliorer, de modifier certains de nos comportements. Et l'idée, c'est de toujours, de façon affirmée, répondre en fait et exprimer ce qu'on a ressenti en entendant ce reproche-là.
D'accord, exprimer effectivement le ressenti pour pas que ça reste bloqué en nous.
C'est ça.
Mais d'ailleurs, parfois, on a des critiques, heureusement, élogieuses. Et ça aussi, parfois, on a du mal à les accepter. Qu'est-ce que vous préconisez dans ces cas-là? Parce que je pense aux comédiennes ou comédiens, d'ailleurs, sur une scène de théâtre. Il y a les applaudissements à la fin, il faut faire le salut, etc. Et certains, on les voit d'ailleurs, sont pas très à l'aise avec ça.
Effectivement, on peut être très gêné et quand on est trop gentil ou gentil chronique, il va y avoir ces pensées qui vont venir de...
Il n'y a que ces gens-là qui n'aiment pas les critiques positives, je veux dire, parce que sinon on apprécie, non, les critiques
élogieuses. Vous êtes à l'aise avec ça, mais...
Vous aussi, non ? Moi j'adore, mais il y en a qui,
il y en a qui le sont pas, plus
quand
que
elles
moi,
sont vraies. Parce qu'il faut savoir si elles sont vraies en fait. Parce que des fois on se dit, est-ce qu'ils le pensent vraiment?
C'est ça.
Et
ça
là, on est la trop gentil encore.
Ils le pensent vraiment, c'est pour être gentil. C'est pas si génial que ça. C'est normal. Pourquoi est-ce
là,
qu'on
est en train
de
lire votre livre si on est dans cette situation-là, effectivement. Donc ça s'apprend, ça veut dire à recevoir des compliments, donc des critiques c'est élogieuses. Ça. Et comment on apprend à les accepter, ces critiques élogieuses?
Il y a plusieurs étapes. Il y a déjà le fait de remercier la personne et puis ensuite d'essayer de voir ce que ça nous a fait en nous. Si on essaye de se dire que si on nous fait un compliment, c'est que c'est vrai. Donc ça me fait plaisir, donc on exprime que ça fait plaisir.
Moi je pense qu'il faut se faire des compliments à soi-même, vous croyez pas? Je trouve que ça marche bien.
Mais oui.
Vous dites quoi le matin par exemple?
Je suis là, quel courage, je suis levée à 3h30 du matin.
Un joli temps, regardez, Julia, aujourd'hui.
Mélanie, quand j'arrive, je dis j'ai fait une super émission ce matin.
Oui, c'est vrai.
Et on va en faire une autre de bonne encore, vous dites, sur Europe 1.
Exactement. Stella, c'est quoi vos films préférés, vous, les plus inspirants, ce que vous nous conseillez, votre top 3, mettons?
A Star is Born.
Ouais.
L'histoire d'amour, la musique.
Ça finit pas hyper bien quand même.
Non, c'est juste le début sympa, le rêve. Après, on peut imaginer la fin. Après, d'accord. J'ai l'agence de George Nolfi avec Matt Damon et Emily Blunt. Comme quoi, soi-disant, tout est tracé, mais en fait, on peut changer les choses. Mm-hmm. Et après, j'aime bien aussi Million Dollar Baby. Alors, c'est juste aller jusqu'au bout de son rêve. Quel qu'en soit le prix, mais il y a toujours un prêt à payer et on le paye toujours avant.
Et Juliette, vous avez une recommandation à nous faire, un film qui vous a particulièrement marqué, qui vous a aidé peut-être, ou qui aide vos passions?
Alors c'est très compliqué, un film que j'aime vraiment beaucoup, il va y avoir Love Actually, mais je ne le conseille absolument jamais.
Hugh Grant revient.
Mais non, moi je conseille souvent Vice Versa à mes patients.
Ah oui, il est génial.
Vous l'avez vu, un dessin animé sur les émotions. Ah
ouais. Il est extraordinaire pour enfants ou pour les grands.
Pour les adultes
ouais,
aussi.
C'est vraiment génial. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et pour ceux qui voudraient encore davantage de conseils, je rappelle votre livre Stella, Ma vie comme au cinéma chez Solar Edition. Et enfin, celui de Juliette Marty, Et si être trop gentil vous empêchait d'être heureux, aux éditions Erol.
Eh bien merci encore. Mélanie, maintenant on va basculer vers la séquence tendance de Bienfait pour vous. Soizic Belin va nous présenter des sex toys. Je voulais pas dire sex toys pendant la musique. Des sex toys d'un nouveau genre, mais surtout des sex toys uniquement masculins. C'est un marché qui progresse. Elle va nous en parler dans quelques instants. Et puis, il y aura aussi la chronique gourmande de Margot Grossman, une chronique particulièrement épicée ce matin. Le pouvoir des épices dans notre assiette. Elle nous dit tout dans quelques toutes petites minutes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on tente de vous faciliter le quotidien tous les matins, de 11h à midi en direct. Et c'est notre partie consacrée aux tendances qui va démarrer à présent. Je me tourne d'abord vers vous, Margot Grossman, bonjour.
Bonjour.
Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu, normal,
vous rentrez.
Manqué. Vous rentrez d'un grand, grand voyage, un voyage qui vous a inspiré une chronique épicée, c'est bien ça?
Absolument, alors je vais vous apprendre à épicer vos vies et je vous dévoile le pouvoir magique de ces épices qui guérissent.
Ah, génial, merci Margot, mais avant de faire monter la température, grâce aux épices dans nos plats, on va faire monter la température grâce aux babioles coquines dénichées par Soizic Belin, bonjour.
Bonjour babioles.
Il y a vraiment
babioles.
Des trucs curieux, j'ai hâte d'en savoir plus. Oui, c'est de la part de qui ces petits objets?
Bon, ça s'intéresse à quoi? Alors aujourd'hui,
on va s'intéresser aux sextoys. On va s'intéresser à ce que veulent les hommes. On va voir ce que les marques de jouets pour adultes ont confectionné pour eux, car il faut bien l'avouer, ils étaient un petit peu en reste, ces messieurs.
C'est vrai, hein.
Alors pour quelles raisons les hommes seraient plus taiseux sur leur utilisation de sextoys, j'ai demandé à M. Jérémy, qui est critique et testeur de jouets pour adultes.
Quand on regarde la communication qui est faite pour le grand public, eh bien tout ce qui est orienté pour le genre dit féminin, eh bien c'est prendre du plaisir, avoir plus de plaisir, booster son plaisir. Alors que quand on regarde sur les produits liés à la sexualité dite masculine, c'est « prends ceci pour devenir super endurant, prends ceci pour avoir une meilleure érection ». Mais à aucun moment on te parle simplement de kiffer. Hein.
Belle introduction donc avec la notion de plaisir. Alors attention aux oreilles chastes, je vais employer des mots tout droit sortis de notre anatomie comme verge, pénis, testicule ou même le point P.
Le point P, je connaissais le G mais le P,
c'est où ça?
Oui, le point P il a fait son petit bout de chemin alors que le point P est réservé à nos chères étantes puisqu'il s'agit de la prostate. Et c'est là que se trouve, pour ceux qui oseraient s'y aventurer, un véritable plaisir. D'ailleurs, certains jouets que j'ai avec moi, je vais vous les faire passer, sont là pour stimuler cette zone. Là, voilà, regardez, c'est un petit chapelet.
On dirait une guirlande, hein, mais je voilà. ne sais pas trop où ça se met.
Ça peut aussi être chouchou pour les cheveux. Hop. Ah, voilà, c'est pratique, multi-usage. Alors, je précise que si certains jouets sont pénétratifs, d'autres sont juste là pour stimuler la zone.
Ça,
là,
ça vous va, avez... à quoi ça sert, cette guirlande là,
c'est un chapelet anal. Vous insérez les petites boules et puis vous les retirez au fur et à mesure. Et là, vous avez donc la marque Lelo, qui fait quand même des super belles choses.
Il est très joli, celui-ci, mais ça ressemble au même que pour les femmes, non?
C'est un stimulateur...
de prostate,
oui, enfin anal, de prostate, ouais. Évidemment. Et oui, ça ressemble un petit peu au sextoy, au petit lapin, vous savez, pour les femmes.
Bah oui, en fait, il semblerait qu'il y ait plusieurs types de masturbateurs, non ?
Voilà, il y a différents types de masturbateurs. Il y a ce que l'on nomme les mécaniques. Alors là, vous avez besoin de vos petites mimines. Hein. J'en ai quelques-uns avec moi, je vais vous les faire passer. C'est ce qu'on appelle des gaines. Alors celle-ci, elle est toute simple, très soft. Vous pouvez toucher, hein, la texture est très... agréable. C'est de l'élastomère.
C'est quoi,
on dirait des petits mochis.
C'est un anti-stress.
C'est mou, hein. C'est... Et ça donne du plaisir aux hommes.
Voilà, vous mettez, enfin, ils mettent leur pénis à l'intérieur, ils se masturbent avec.
On a rien
compris.
C'est, oui, d'accord.
Et oui, et donc vous avez différents, pour varier les plaisirs, ce qu'on appelle les petits œufs, parce que du coup, c'est comme en mode Kinder Surprise. Hein. Et sur la boîte, vous avez vu, il y a différentes textures. Donc celle-ci, c'est à strie, à vaguelette et à picot. Voilà, ben ces choses-là sont très accessibles financièrement.
Ça coûte combien les petits œufs là, comme ça ?
Ça coûte 8 euros. Ah oui, 8 euros, mais vous pouvez les utiliser que 3-4 fois et ensuite poubelle. Donc c'est pas très écolo.
Ah,
hein,
oui,
voilà.
D'accord. Ah, d'accord. Mais il y en a pas à vibration ?
Si, si, il y a aussi la vibration. Alors ici, j'ai avec moi le Men Vibration de chez Satisfyer, qui est censé simuler une fellation.
D'accord.
Voilà. Il y a 14 modes. Regardez, c'est très joli. C'est très bien emballé, toujours très bien emballé.
On est trop féminin aujourd'hui autour de la table. Il aurait fallu un homme pour.
Mais sinon, vous avez cette petite merveille. Alors, c'est une petite merveille de chez Lelo.
Ouais,
le F1SV2, que je prononce bien. Alors, ça coûte 300 euros quand même, cette petite chose-là. C'est une console de plaisir qui, un peu comme le Womanizer, vous savez, maintenant on n'en parle plus, hein, tellement tout le monde l'a testé, tout le monde le connaît et il fonctionne.
Hein. On ne prend pas ce que c'est.
Là, c'est la version pour
homme. Ça simule une fellation, je veux dire.
Là, vous vous introduisez là-dedans votre pénis et ça vibre et ça crée des sensations de plaisir. Voilà.
On a Benjamin Lévesque qui arrive en studio parce qu'on ne comprend pas tout avec Julien.
Et ce petit objet a reçu le X-Biz Award cette année.
Benjamin, regardez. Regardez Benjamin.
Bonjour les filles.
Bonjour Benjamin.
Alors, j'ai entendu qu'il y avait un sujet intéressant, donc je voulais savoir.
Vous avez déjà entendu parler de tout ça, Benjamin ?
Bah, les sextoys pour hommes, on connaissait que les cock rings, donc les anneaux, mais
j'allais finir sur les bagues à pénis, c'est comme ça que je les appelle. Alors, ils sont aussi esthétiques qu'efficaces, hein, puisqu'ils viennent épouser la base de votre verge, et donc ils maintiennent l'érection, il y a aussi un côté pratique.
Excusez-moi, ça fait pas mal ?
J'allais dire non, mais j'ai jamais testé.
Il faut pas avoir de problèmes de varices ou ce genre de choses. Hein. C'est pas bon pour
le
système veineux.
Là, vous voyez, regardez, il y a quand même une rencontre entre la sextech et le monde de la mode, puisque c'est Diegel et Lelo en fait, qui se rencontrent. Alors, cette chose vibre, et quand vous pénétrez votre partenaire,
ça fait du plaisir aux deux.
Voilà, ça fait du plaisir aux deux. Et sinon, si vous avez un problème de diamètre, parce qu'il y a aussi, voilà, tout le monde a un pénis. Vous avez ces petits lassos. Et ça, c'est la marque 50 Shade of Grey.
C'est réglable, en fait.
Voilà, c'est réglable. Voilà, il suffit de tirer.
Mais ça vibre aussi une fois que...
Non, ça vibre pas.
Ça vibre pas, d'accord.
Regardez, je vous fais passer. Hop, hop, hop.
Il y a quand même beaucoup de choses, je ne connaissais pas ce marché du sextoy masculin.
Alors, c'est incroyable. Si vous en doutiez, sachez que le marché du jouet pour hommes se déringardise, on l'a vu, se popularise et les marques font travailler leur R&D en recherche et développement pour des objets donc esthétiques, ludiques et aussi très efficaces.
Bon, bah merci beaucoup Soizic pour toutes ces découvertes. Bien sûr, on mettra toutes les références de ces joujoux évoqués sur nos réseaux sociaux. Voilà, la température est à son comble dans ce studio. On va passer du coup à la chronique gastronomie de Margot Grossman qui va nous délivrer ses bienfaits. C'est pas mal aujourd'hui, sextoy et épices.
Mais oui,
ça va bien en
chaleur.
Donc votre secret du jour, Margot, c'est de tout miser sur les épices.
Oui, exactement. Alors aujourd'hui, on s'envole en Inde, donc dans les coulisses du monde des épices qui guérissent. Alors c'est un délice. Hein. Enfin, on s'envole. Donc de mon côté, on atterrit, hein, puisque je viens tout juste de rentrer de 2 mois de périple, donc dans le sud de l'Inde, au Kerala, qui est en fait la terre-mère de l'Ayurveda. Du coup, ça fait tout bizarre ce retour. Mais pour prolonger mon séjour, j'avais envie de partager avec vous les trésors de ce pays. Alors, est-ce que vous saviez que la pharmacie se trouve directement dans notre cuisine ?
Mais oui, mais il paraît ça. Alors, parlez-nous de ces épices qui guérissent, c'est quoi leurs effets ?
Alors, en Inde, on les appelle masala, ça veut dire antidote. Parce qu'en fait, les Indiens n'utilisent pas seulement les épices pour assaisonner les plats et pour toutes leurs vertus santé, mais aussi pour rendre les nutriments plus facilement assimilables par l'organisme, en fait, mieux digérés. Et comme elles renforcent le système immunitaire, ça permet également de soigner les déséquilibres et les maladies. Alors d'ailleurs, les femmes indiennes ont l'habitude de changer ses épices en fonction des humeurs et de l'état de santé de la famille. En fait, chaque épice a ses propriétés uniques, mais elles peuvent aussi agir en synergie pour renforcer leurs bienfaits.
Margot, quelles sont les principales épices à connaître et à utiliser chez soi, justement ?
Bon, alors déjà, on a ce fameux curcuma, hein, donc c'est l'un des antioxydants et anti-inflammatoires les plus puissants qui soient. Mmh. Alors, il va brûler les graisses, baisser le mauvais cholestérol, stimuler le foie, calmer l'anxiété et purifier le sang comme la peau. Alors, on peut en saupoudrer sur à peu près tous les plats. Donc, l'idéal, c'est de l'acheter frais, puis de le laisser sécher et de le moudre soi-même. Donc, 1 à 2 cuillères à café par jour, c'est parfait. Par contre, bon, attention les doigts, parce qu'il y en a pour 3 jours à chaque fois.
Ah oui, on a les doigts oranges après.
Mais oui, exactement. Alors, on a aussi le poivre noir. Donc, je vous parlais de synergie des épices entre elles. Alors, en fait, le poivre noir, il contient de la piperine qui va augmenter l'assimilation du curcuma de 150% tout de même. Wow. Et cette piperine, en fait, elle va aussi stimuler la production d'endorphines. Du coup, le poivre noir, il va agir comme un antidépresseur naturel, en plus de renforcer les poumons, de lutter contre la toux, le corona, les inflammations. Et sachez aussi qu'il booste la libido et qu'il aide à arrêter de
fumer. Entre les épices et les sextoys,
ça va être chaud aujourd'hui.
Il faut du poivre et des sextoys.
Et vous avez ramené quoi d'autre d'Inde ?
Alors, on a aussi donc, le gingembre, hein, donc, pour le cœur, la libido, lutter contre la gueule de bois et renforcer l'action du curcuma, comme le poivre. Et on a bien sûr la cannelle, qui est ma préférée. Alors, elle est antioxydante, digestive et antibactérienne, en plus de son petit goût sucré réconfortant à souhait. Et elle va aussi être parfaite pour lutter contre la fatigue et pour stimuler l'activité du cerveau. Il paraît même qu'elle pourrait créer des neurones.
Allez, de la cannelle partout, on va en mettre. Mais pour finir, Margot, vous avez d'autres épices dans votre besace ?
Alors, il y a la cardamome aussi, qui est ma deuxième préférée. Alors, celle-ci, elle est stimulante, tonifiante et légèrement aphrodisiaque. Et sans oublier donc la muscade, qui est très riche en calcium. Alors, on peut aller jusqu'à 5 grammes par jour pour profiter de ses effets anti-stress et anti-douleur. Et bien sûr, on a la badiane, qu'on appelle aussi anis étoilé. Alors, en infusion, elle est parfaite pour combattre les troubles digestifs et pour parfumer le riz, les pâtes,
bon,
les
poissons. Qu'est-ce qu'on boit là? Oui, parce que vous avez sûrement une petite recette.
Elle est venue avec un apéro glacé,
bien
là,
bien
c'est
sûr.
Quoi, on se régale depuis tout à l'heure, mais c'est pas bien sûr.
Alors, en fait, j'ai réuni donc toutes ces épices qui guérissent dans une seule boisson, qui est aussi délicieuse que bienfaisante pour notre santé.
Julien, on est au troisième verre. Donc, je crois que le délicieux est confirmé.
C'est fait pour. Alors, donc, c'est un golden chai tea latte que je vous ai préparé.
C'est très, très bon.
Alors, en fait, en Inde, on l'adore. D'ailleurs, c'est une amie indienne qui m'a partagé sa petite recette secrète comme au pays.
On la salue, hein, parce qu'elle est bonne.
Ouais, aussi, je lui dis namasté et merci. Alors bon, traditionnellement, dans le chai, on utilise du lait de vache et il n'y a pas de curcuma. Mais je l'ai un peu twisté à ma sauce. Hein. De toute façon, en Inde, il y a autant de recettes de chai que de cuisiniers. Alors pour 1 litre en version végane, vous avez besoin de 75 centilitres de lait. Donc moi, j'ai utilisé du lait de soja.
On aurait pu faire avec du lait d'amande ou pas ?
Avec le lait que vous voulez.
D'accord.
Alors, 1 cuillère à soupe de sirop d'agave ou de sucrant au choix, 25 centilitres d'eau et 2 sachets de thé noir type Darjeeling. Et du côté des épices, on aura besoin d'une demi-cuillère à café de curcuma, d'une pincée de gingembre, de 5 grains de poivre noir, 8 gousses de cardamome, 2 bâtons de cannelle, 1 étoile de badiane et on peut aussi ajouter 1 pincée de muscade et 3-4 clous de girofle qui sont excellents pour la santé des os.
Bien épicé tout ça, c'est parfait.
Exactement.
Donc on met ça dans la casserole, on va chauffer. Voilà. Mélanie, on sent bien le poivre.
Ah ouais, c'est délicieux.
On sent tout. C'est la synergie merveilleuse. Donc dans une casserole, on va simplement chauffer l'eau avec le sucre, le lait et les épices. Alors surtout, on fait pas trop bouillir parce que ça va permettre de préserver en fait toutes les propriétés des épices. Alors quand c'est chaud, on mélange bien. Puis on ajoute nos sachets de thé qu'on laisse infuser 2-3 minutes. Là, on mélange à nouveau, on filtre et c'est prêt.
Je pense que c'est simplissime. Hein.
Simplissime. Ah ouais. Alors, autre variante, on peut
encore
y ajouter...
Il n'y a pas un risque avec une surdose parce qu'elle a
Non, jamais, peur. Ne vous inquiétez pas.
D'accord, ok.
Alors, donc, autre variante, donc on peut y ajouter quelques glaçons pour une version frappée. Et on peut transformer notre chai tea latte en dirty chai latte.
Ouh, dirty.
Alors, pour ça, oui, dirty. Alors, pour ça, il suffit d'ajouter un shot de café à la préparation. Et en fait, l'avantage, c'est que les épices vont venir contrer les mauvais effets du café, comme par exemple la nervosité. Alors j'imagine que vous êtes prêt à épicer vos journées.
Julia, elle est déjà très épicée. Au quatrième verre, là, elle est en pleine forme. Ouais, pour enchaîner avec une autre matinale. Voilà.
C'est délicieux. Merci Margot. D'ailleurs, on peut retrouver la recette et vos péripéties indiennes sur votre compte Instagram. C'est Margot-Amassos. C'est bien ça ?
Exactement. Alors donc je vous poste la recette du chai en story sur mon Instagram, donc Margot-du-bas à ma sauce. Et j'en profite rapidement pour vous parler d'un événement magique qui aura lieu le 26 juin prochain à Paris. Alors ça s'appelle le River Spirit et c'est une croisière bien-être sur la Seine avec yoga, méditation, massage, veggie food, ayurveda, très indien du coup.
Génial.
Alors j'y animerai une masterclass sur les épices et sur l'ayurveda justement et j'y proposerai aussi des consultations individuelles. Donc vous pouvez prendre vos places sur internet sur le site happynin.fr. Je vous poste également toutes les infos sur mon Instagram en espérant vous y accueillir.
Eh ben, génial.
On va donner un shot à Romain Des Arbres, il est en pleine forme pour Europe Midi. Là.
Je ne sais pas ce que je viens de boire, mais c'est très bon.
Ah, c'est très bon, vous voyez.
C'est un latte, un chai latte.
Ça vient d'Inde.
Très épicé.
Eh bien, merci Margot pour toutes ces astuces culinaires. Voilà, j'espère que vous avez passé une heure agréable en notre compagnie. Nous serons de retour, bien sûr, demain dès 11h. Et Mélanie, quel sera notre grand sujet du jour?
Eh bien, demain, on va parler de notre mémoire. Peut-on la booster? Je pense qu'avec cette boisson, c'est fait. Hein. Quel que soit l'âge, on sera en pleine forme. On vous livrera les conseils des maîtres en la matière. Un champion de mémoire sera même en studio avec nous. Donc pour en savoir plus, rappelez-vous, le rendez-vous est à 11h demain sur Europe 1.
Mais oui, tout à fait. Pour le moment, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Quel est le programme, Romain?
Dans Europe Midi, on va parler de beaucoup de choses, évidemment, mais on va surtout parler d'Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre. D'ailleurs, on dit premier ministre, première ministre. Alors, vous répondez première ministre, hein, oui. Mélanie Gomez. Oui. Mais vous pouvez appeler au 3921 et vous passerez à l'antenne pour nous donner votre avis. Et puis plus sérieusement, voilà, sur ces priorités, il va être beaucoup question, bien sûr, de pouvoir d'achat. On sera également avec David Guiraud, qui est orateur national de la France Insoumise, et avec Isabelle Florenne, qui est députée La République En Marche. Voilà le programme.
Merci beaucoup, Romain. À tout de suite.
À tout de suite.